À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
Une présentation de la bijouterie Daniel Blatt Diamantaire.
De la belle visite aujourd'hui à l'émission À deux, c'est mieux. Brian Perrault, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. Brian, nouveau livre, complètement différent de ce qu'on a pu lire de toi dans les dernières années. Je sais pas si on peut se tutoyer.
Oui, on peut se tutoyer, Luc. C'est un autre truc. J'avais commencé par écrire de la littérature, appelons ça plus de la littérature dans le sens où le but de l'œuvre, c'est de mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'homme. Puis après ça, il est arrivé à Mos d'Aragon où je suis tombé dans le fantastique pendant de nombreuses années. Et Heublon qui arrive à la suite du décès de mon père pour faire un peu le point sur une jeunesse que j'ai eue qui est assez atypique, disons.
Oui, et votre père est décédé d'ailleurs, ton père est décédé d'ailleurs en 2019. Donc, est-ce qu'il fallait attendre ce moment-là pour...
Oui et non. J'ai écrit il y a 20 ans, avant la série Amos d'Aragon, j'ai écrit un petit livre qui s'appelait « Pourquoi j'ai tué mon père », qui était une petite plaquette et qui était un peu un résumé de ce que j'ai écrit là, dans le sens où je parlais des mêmes enjeux, tout ça, puis ça se voulait une façon de rentrer en contact avec mon père et qu'on puisse ouvrir une conversation ensemble sur cette jeunesse-là, sur ses désirs, sur ses volontés, sur ce qui l'avait mené à me pousser de cette façon-là dans le sport. Et cette conversation-là n'a jamais eu lieu par rapport à ça. Il l'a pris comme un hommage. Tout ça, c'était un peu étrange. Fait que j'ai jamais eu les réponses que je voulais, puis jamais eu la conversation que je voulais avec mon père. Fait que notre relation ne veut pas d'évoluer pendant 20 ans, t'sais, jusqu'aux 10 dernières années de sa vie où je parlais plus, simplement. Ça a été le silence total. Et quand il est décédé, j'ai repris le livre que j'avais écrit il y a 20 ans, j'ai commencé à le relire. Puis évidemment, j'avais pas le métier que j'ai là à 52 ans quand je l'avais à 30 ans. Fait que j'ai commencé à le repotasser puis à dire « Oh, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, il faudrait amener ça comme ça. » Puis naturellement, j'ai commencé à le réécrire pour le plaisir. Comme ma volonté, c'était de faire le point sur cette histoire-là. Comme j'ai pas eu cette conversation-là avec mon père pour le faire, il fallait moi que je dépose le bilan de ça. Donc l'œuvre, c'est ça. Voilà.
On parle du rite initiatique des gnous. Des gnous, et du jeune gaou, donc le veau des gnous. Comment c'est arrivé ce comparatif-là? Parce que c'est là tout au long du livre, évidemment.
C'est là tout au long, parce que c'est l'histoire d'un jeune garçon qui court le marathon de Montréal à 12 ans, ce que j'ai fait. Et ça part de là, et ça part du Pif Gadget. Dans ma jeunesse, on avait cette revue-là de bande dessinée. Puis dedans, il y avait des reportages, tu sais, souvent de trucs. Et ça m'avait marqué, la grande migration des gnous, qui partent du Kenya, puis qui montent jusqu'en Tanzanie. Puis ces espèces de créatures-là qui sont en troupeau, comme des marathoniens en 1980, et qui font cette aventure-là par nécessité, mais par entêtement, qui ont juste une façon de penser, une façon de voir en troupeau. Tu sais, quand ils traversent la rivière Massai, ils savent, depuis des générations, qu'il y a des crocodiles qui vont les bouffer, mais ils traversent pareil, ils prennent la chance pareil. Donc, ils font toujours le même chemin, et ça m'apparaissait une métaphore intéressante pour une partie de ma famille qui sont aussi des gnous, ils ont toujours la même façon de penser, ou que mon père était, en tout cas. Toujours une façon de penser, même façon de penser, et qui sont... Tu peux pas les changer de voix, tu sais. T'essayes de les convaincre de d'autres choses, mais ils sont barrés à aller dans ce voie-là, puis ils ont raison, même si ça signifie la mort au bout du compte, tu sais. Ou le fait de plus parler à son fils, ils vont pas changer de direction jamais.
Est-ce que ça a été une façon de faire la paix avec cette enfance-là que t'as pas eue, en quelque part?
Oui, c'est une façon de faire la paix avec, justement, cette enfance-là que je n'arrête pas de répéter partout dans ce que je fais. Tu sais, le premier roman que j'ai écrit, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui pense qu'il est une marmotte. Bon. Le deuxième, c'est l'histoire d'un hydrocéphale, mais tu sais, qui pense comme un enfant, puis que même s'il est vieux, il est mort. Le troisième, c'est pourquoi j'ai tué mon père, qui est l'histoire de mon enfance avec mon père. Après ça, je fais Amos d'Aragon, qui est adressé à l'enfance. Je m'intéresse à la mythologie, les créatures fantastiques, qui c'est quelque chose qui est lié à l'enfance aussi, aux contes, aux légendes. Fait que j'arrive jamais à sortir de mon enfance quelque part. Donc, je me dis, ben voilà, c'est ça. Il y a des écrivains qui ont des thèmes majeurs dans leur existence. Fait que le thème majeur de ma vie, ben c'est l'enfance. Et avec ça, ben je repotasse encore mon enfance. Peut-être que ça va me propulser pour aller ailleurs, mais à quelque part, c'est vraiment la base de ce que je suis comme auteur puis comme écrivain.
Et ben évidemment, il l'a pas lu, bien sûr, parce qu'il est plus là, mais la famille a réagi comment?
Bon, ma mère, où mes parents se séparent là-dedans quand j'ai 12 ans, tout ça, ma mère l'a lu.
Qui est la gazelle dans l'histoire.
Qui est ma gazelle, ouais. Je l'appelle ma gazelle au lieu de ma mère parce que c'est une créature différente de mon père. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans le même troupeau et comment j'arrive là-dedans parce qu'elle c'est une autre race.
Oui, c'est pas du tout pareil. Là. Non, elle aime les soirées, les super au restaurant.
Les super restaurants, les soirées, les machins. Elle aime pas plus le sport qu'il faut. Elle aime magasiner. C'est un autre. La vie est plus légère chez ma mère. C'est pour ça que je l'appelle ma gazelle. Et chez ma grand-mère aussi. Vous voyez qu'elle est. Tu sais, c'est un autre monde. C'est un autre troupeau. c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et il y a un certain art de vivre chez les gazelles qu'on n'a pas chez les gnous. Et bon, ma sœur l'a lu. On a 16 ans de différence. On ne vient pas de la même mère. Donc, elle a pris assez tough. Elle me disait, elle parlait d'auto-victimisation puis tout ça. Puis elle l'a trouvé assez dur, mais elle n'a pas connu le même homme que j'ai connu non plus. Bon, puis elle n'a pas la même vision de la chose. Je l'ai passé à certains proches aussi qui ont bien connu mon père, qui m'ont dit « Non, c'est exactement ça. On le reconnaît, c'est exactement bon. C'est ça vraiment. » Donc, les réactions sont diverses par rapport à la relation qu'on avait avec mon père et comment on le voyait. Ce qui est assez normal, mais moi, je revendique le fait que c'est mon histoire.
Ouais. Oui.
Et c'est mon angle de vision. Donc, alors, si quelqu'un veut écrire son angle sur mon père, il n'y a pas de problème, tu sais. Sauf que moi, je revendique fermement cet angle-là. Et je l'ai écrit avec, je pense, assez d'honnêteté et d'authenticité. Je pense, pour dire les choses comme elles le sont, sans pourtant les embellir, sans pourtant les rendre plus laides, mais essayer d'être juste par rapport à moi et mes émotions. C'est surtout ça, le travail de ce livre-là.
Mais est-ce qu'on se censure? Parce qu'il ne faut pas que ça ait l'air non plus d'une vengeance, carrément.
Ben voilà, c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est d'avoir le bon...
dosage.
Le bon dosage. Et puis ça, c'est difficile. Parce que chez certains, ça pourrait avoir l'air de ça. Pour d'autres, non. Mais l'important, c'est que pour moi... Parce que, tu sais, les gens vont dire, hey, « tu le détestais, ton père. » Je le détestais pas. Je suis pas sûr que je l'aimais. Mais c'est sûr que je le détestais pas. C'est même compliqué comme ça. Puis j'y dois beaucoup. Tu sais, la carrière que j'ai comme écrivain, faire 3 Amos d'Aragon par année, tous les salons du livre, à l'international, j'ai une discipline de fer. Ça vient de où?
Du sport.
Ça vient du sport, ça vient de ce que mon père m'a enseigné. Donc je lui dois ça. Tu sais, courir le marathon de Montréal à 12 ans, puis pogner le mur à 12 ans, ce qui est une étape que tu vis au 35e kilomètre à peu près, où tout se déstructure dans toi, puis tu veux mourir, puis bon. Quand tu pognes ça à 12 ans, ça te laisse une confiance en toi qui est inébranlable. T'sais, moi, je suis un type qui a une confiance en moi fantastique. Puis c'est pas un problème d'égo, c'est quand tu vis ça à 12 ans, après ça, il n'y a plus grand-chose qui t'énerve dans la vie, tu sais. Plus grand-chose, il n'y a plus aucune épreuve que tu considères dans la vie comme insurmontable. Tu sais? Mais ça, je le dois à mon père. Et il y a plusieurs autres choses comme ça que je dois à mon père et je lui en suis reconnaissant. Maintenant, la question, c'est est-ce que toute cette confiance-là qu'il m'a laissée, j'aurais aimé peut-être en avoir moins pour avoir une meilleure relation avec mon père? Puis avoir un chum, un confident, quelqu'un pour faire des choses avec. Ben, la réponse, c'est peut-être oui. C'est Et sûr, peut-être que j'aurais pu même me construire une confiance en moi aussi solide tout en ayant une relation constructive avec mon père, tu sais. Et c'est ce que j'aurais souhaité et que j'ai jamais eu.
Parlons-en du marathon. 12 ans, donc, tu te retrouves sur la ligne de départ du marathon pour ce qui devait être un demi-marathon. Il devait avoir quelqu'un qui t'attendait à 21 km.
Exactement.
Mais tu ne savais pas qui. Ton père avait refusé de te dire qui allait être là.
Ouais.
Et il n'y avait personne.
C'est ça. Ça, c'est un des pièges que mon père m'a tendu dans la vie. Puis même plus tard, j'ai essayé de savoir. Puis j'ai demandé, j'ai dit, ouais, finalement, c'est qui t'es supposé me chercher au marathon? T'sais? Ouais, je sais pas, ouais, j'avais parlé, un gars. Tout est organisé dans ma vie, moi. Tout est organisé par lui. Il devait bien savoir qui était pour venir me chercher. Fait que mon père me raconte une histoire. Moi, je suis entraîné à 12 ans pour faire du demi-marathon. Demi-marathon, c'est 21 km. Un marathon complet, 42 km. 26 385 verges. C'est ça, un marathon. Fait que moi, je suis entraîné pour du demi-marathon. Puis parce que je me suis entraîné pour du 10 km avant, puis là, bon. Puis là, il me dit, on part là, puis il dit, OK, on va venir te chercher au 21 km, mais suis la ligne bleue. Faut toujours suivre la ligne bleue. Puis là, les insistances sur la ligne bleue, faut la suivre, faut boire souvent. Mais tu sais, je me demande pourquoi qu'on me dit, qu'il me répète constamment ça, puisqu'il est toujours avec moi. Fait que ça donne rien que je sache 35 fois qu'ils me disent que je suis de la ligne bleue, juste à le suivre lui, ça va être correct, tu sais. Mais non, puis il y a ça, puis il y a ça, puis tout ça. Et il me dit, il y a quelqu'un qui va te prendre au 21e kilomètre, si on se perd, machin, tout ça, parce que lui va faire son marathon en bas de 4 heures, et puis tout ça, mais il va commencer avec moi, puis bon. OK, parfait. Et arrivé au 21e kilomètre...
En fait, il commence même pas avec toi, d'abord?
Non, il commence même pas avec moi, parce qu'il s'en va pisser sur un pilier de pont. Puis le départ est donné, et là, je suis perdu dans la masse de coureurs. Et en 1980, à Montréal, le marathon n'était pas 8 coureurs, là. C'est des milliers et des milliers qui sont sur le pont. Fait que je le perds de vue et je me retrouve seul dans cette jungle de Montréal avec ce troupeau de gnous qui est là, qui court autour de moi. Puis pour faire cette migration-là, en me disant, ben je le perds, mais au moins je vais finir au kilomètre 21. T'sais. Et quand j'arrive au kilomètre 21, oh, comme le plus grand des hasards, il n'y a personne. T'as 12 ans. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sors, puis là, t'es...
Dans une ville qui n'est pas la tienne, déjà en partant.
Là, je le sais que j'étais directement... Parce que je suis retourné à cette place. C'est la rue Viau. C'est la gare centrale. L'hôtel Bonaventure. Là, il y a le salon du livre. C'est là la fin du 21e kilomètre. Je le sais, je suis allé sous... Je l'ai vu. Puis après ça, bon, fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai 12 ans. C'est pas d'argent. Je sais pas comment prendre le métro. Je ne sais pas où le marathon finit, parce qu'il finit pas sur le pont. Il finit sur l'île Sainte-Hélène. Je ne sais plus. Et je sais rien. Puis là, il n'y a personne pour m'aider. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, il y a juste deux choix. Revenir en arrière, puis c'est pas un choix, parce que je vais me retrouver sur le pont, puis c'est pas à la place. Ou continuer. Et ce choix-là a été imposé. Ben, en fait, m'a été imposé, parce que mon père savait que c'est la ligne bleue, puis tu vas arriver, puis tout ça, qu'il y avait juste une option pour moi qui était nécessaire, c'était de suivre la ligne bleue pour ça, pour finalement finir cette espèce de rituel de passage-là que j'appelle, qui était fondateur dans ma famille. C'était pas toujours le marathon, mais les enfants dans cette famille-là ont toujours eu des épreuves à passer pour devenir un homme et tout ça. Alors ça, c'était mon épreuve. Donc, ce piège-là que m'a tendu mon père, ben voilà, c'est ça. C'était ça. Et plus tard, tu sais, je rencontre ma mère. Puis dans le roman, elle me dit que c'était elle qui était supposée venir, tout ça. Ça, c'est pas vrai. J'ai rencontré ma mère, ça c'est la partie romancée, qui était venue me voir courir le marathon parce que mon père lui avait dit « Non, Brian va courir le marathon. »
Il avait même pas dit un demi.
Ben non, il avait même pas dit un demi. Puis, il y a 3 jours, 4 jours, tu sais, ma mère a relu le livre, je sais plus combien de fois ça fait qu'elle le lit. Puis on prenait un café avec, elle dit, tu sais, elle dit, ton père, il m'a jamais dit de venir te chercher au demi-marathon, là. Jamais. Elle dit, moi, je t'allais te voir parce qu'il m'a dit que tu courais le marathon. Je veux juste que ça soit clair, puis que puis que tu le dises que je suis pas niaiseuse puis que je sais compter.
Oui, parce que dans le livre, tu dis que il y a une confrontation dans le livre.
Oui, oui,
où
oui.
Tu dis une demi, c'est pas 21. C'est pas 31.
C'est pas 31, c'est. Ben, elle dit ça, ça n'a jamais existé. J'ai déjà le sais, mais ça, c'est la partie romancée, môme, du roman de ce nom. Elle dit, dis-le que je sais compter, j'étais un simple prof de maths, puis que la moitié, j'aurais pas fait d'erreur, puis je serais... J'ai dit, oui, je sais. Mais, donc, c'est ça. Ça, c'est la partie romancée pour pouvoir me relancer. Mais en gros, c'est à peu près à 90% autobiographique. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été piégé dans cette aventure-là. Et, voilà. Fait que ça a constitué mon rituel de passage.
Il y a Phil dans le marathon, qui est un autre des coureurs. Est-ce qu'il a existé,
oui.
Phil?
Ben, Phil Latulippe a existé dans ma vie, mais après. Parce que Phil Latulippe est devenu un ami de mon père, puis on fait ensemble Alaska-Shawinigan, un périple que Phil a fait, que mon père organisait, tout ça. Fait que j'ai bien connu Phil Latulippe, je l'ai rencontré après. Et je me rappelle, en 1980, l'avoir croisé, puis dire, mon Dieu, c'est qui ce vieux bonhomme-là qui court? Sauf que dans le roman, je me l'approprie un peu. Oui, là, on a une conversation ensemble. Parce que dans un roman, parfois, on a besoin de trucs
discussion.
Pour rebondir, de conversation, pour expliquer des choses. Fait que c'est un personnage qui me sert un peu de mentor durant l'aventure, que j'ai bien connu, mais que j'ai pas connu en 1980 quand j'ai fait mon marathon à 12 ans. Mais qui, après ça, fait partie de ma vie pendant plusieurs années. Puis sa femme Lucie et ses aventures et tout ça. Donc c'est un type que je connais bien, qui m'a dédicacé ses livres aussi, puis avec qui on avait une... avec qui ma famille avait une relation sportive et amicale aussi. Mon père avait une relation amicale avec Phil.
Le mur arrive à 35 km.
Oui.
Tu sens plus rien. Ton corps lâche carrément.
Oui.
En fait, à 12 ans,
oui.
C'est terrible quand même de vivre ça à 12 ans. Mais comment tu te sentais quand c'est arrivé? Parce que de ce que je comprends, on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive. Le corps répond juste plus. Là.
Non, c'est vraiment... moi, j'ai vécu un... À 12 ans, je me rappelle d'avoir vécu un shutdown. Tu sais, un... C'est fini. J'ai de la misère à le dire. Il n'y a plus rien qui marche. Tout arrête. Et je me souviens d'avoir traversé le pont justement pour me rendre sur l'île Notre-Dame ou Sainte-Hélène, je ne sais plus c'est laquelle, là, qu'on arrive en premier, par les bâtiments de Expo 67.
Ouais.
Le pont qui est là. Et tout de suite après le pont, ça s'arrête. Ton moral s'arrête, ton corps s'arrête, tout s'arrête. Je me rappelle de m'être assis, d'avoir enlevé mes souliers parce que j'avais terriblement mal aux pieds. Puis, il s'est passé du temps. Je sais pas combien de temps, jusqu'à temps qu'il y ait le corps se réamorce et qu'il y ait quelque chose qui se repasse. Le mur, c'est une déstructuration complète de moi, comme je l'ai vécu, de parce que j'avais pas l'entraînement pour le faire non plus, il faut comprendre ça. De ton âme, de ton corps et de tout se démolit, se fracasse en morceaux, comme une vitre. Tu te donnes un coup dessus, ça pète en morceaux. Et c'est l'impression que j'ai eue. Puis quand j'en parle, puis quand je me remets dans cet état-là, c'est vraiment l'impression d'une cassure et d'une brisure interne, aussi bien morale que physique. C'est dur à décrire. Le vivre, c'est pire. Et à 12 ans, c'était quelque chose d'incompréhensible non plus. Parce que c'est paniquant, parce que tu sais pas ce qui arrive en même temps. Puis en même temps, t'as comme plus conscience non plus, trop. Tu tombes comme dans un brouillard. Parce que t'as plus de sucre dans le sang. Tu sais, t'as plus de...
Mais c'est dangereux, c'est carrément dangereux.
Ben, c'est quelque chose de dangereux. Mais ça, les rituels de passage, c'est ça. C'est... Tu passes, tu deviens un homme, ou tu ne passes pas. Voilà. Je pense pas que c'était dans la tête de mon père qui aurait voulu aller jusque-là. Cependant, par son entêtement et cette imbécilité-là, selon moi, à planifier cette chose-là en disant « Non, non, je suis capable. » Mais ça en arrive qu'il aurait pu avoir des conséquences plus graves, tu sais.
Puis on parle du livre « Eul Blond », parce que c'était le nom... Ben, en fait, c'était comme ça que ton père t'appelait.
Ben, mon père, il appelait tout le monde « Eul Blond ». C'était un ancien professeur d'éducation physique. Puis, tous les gars, ils appelaient le blond. « Hey, le blond, viens ici. Hey, le blond, viens ici. » Puis moi, quand ils m'appelaient le blond, là, ça, c'était une mesure de recadrage. Parce que généralement, il y avait un sacre avant, ou plusieurs. Il y avait le blond, et un sacre après, et ou plusieurs. Tout dépendamment de la gravité de la chose. fait que c'était toujours accompagné d'une je dirais pas de litanie, mais de plusieurs. Fait qu'il fallait que je me tienne droite quand il m'appelait Alblon.
Est-ce que ça a été tough à écrire? Parce que les blessures d'enfant, j'ai l'impression que c'est l'affaire où on veut pas retourner dedans.
On veut pas retourner, on veut. Sauf qu'à un moment donné, il faut les confronter. T'sais, tantôt, on parlait à micro fermé de mon père, puis on disait, ouais, mais c'était un homme d'une génération, puis tout ça. Ouais, je suis d'accord, mais tu sais, même si on a des principes, même si on est élevé dans certains principes, même si on fait partie d'une génération, il y a le libre arbitre qui existe. Et se confronter à ce qu'on est, à nos valeurs, à nos blessures, ça fait partie de la construction d'un être humain. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est pas plaisant d'y revenir. Cependant, c'est quelque chose que je devais faire pour moi, pour justement être meilleur père, meilleur grand-père, pour voir justement, pour être plus en contact avec cette partie-là de mes émotions, tu sais, puis d'essayer de reconquérir cette jeunesse-là aussi qui est perdue. Fait que c'est un exercice que moi j'ai fait, puis t'acceptes de te... Ben, de rouvrir ces blessures-là pour se dire, bon, ben après ça, peut-être qu'elles vont être refermées une fois pour toutes et que ça va cicatriser, ça laisse des marques, mais ben allez, on continue, tu sais, puis on en a conscience, c'est là, ça existe, la cicatrice est là, puis on fait avec, puis ça roule, et puis on est juste plus mieux adapté aux autres et au monde dans lequel on vit. Tu sais.
Est-ce qu'on le fait aussi en pensant aux autres parents de ce genre-là? Pour poser une réflexion là-dessus, on en a parlé à micro fermé, il y a des parents d'aréna, des parents de stade.
Ouais.
Il y a les parents dans le monde artistique aussi qui poussent beaucoup trop les enfants qui ne veulent pas tant, ou qui veulent un peu, mais pas autant qu'on leur demande. Est-ce qu'on le fait pour ça aussi un peu?
Ben, le problème des parents qui sont comme ça, c'est que mon père me disait souvent ça. Puis surtout quand j'ai commencé à avoir du succès avec Amos d'Aragon, j'étais plus son fils, j'étais son prolongement.
Hey, my God.
Non, non, mais... Et ça, à partir du moment où c'est plus ton fils, mais ton prolongement, il y a cette volonté des parents de s'incarner dans les réussites de leurs enfants et d'en tirer une fierté et une gloire pour eux-mêmes. Ce qui est très malsain, je pense. Donc oui, ça peut... ça met en scène... Ça peut peut-être allumer certains parents là-dessus. Puis en même temps, ça peut également, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que les adolescents doivent le lire aussi, parce qu'il est possible de critiquer ses parents aussi, de les confronter et de dire « j'ai une vie et voici ma vie et voici ce que je suis et vous devez l'accepter et m'aimer malgré tout. » Chacun a des destinées qui sont différentes. Puis veux pas, moi, tu sais, c'est le marathon, puis je deviens autre chose après, tout ça. Mais je suppose que quand t'es gay, puis t'as 14 ans, le dire à tes parents, ça représente aussi un marathon de sortir du garde-robe, puis se faire accepter, puis tout ça. Ou quand t'es différent, ou quand tu te sens pas bien. Tu sais, fait qu'à quelque part, c'est un livre aussi pour les parents, pour savoir ce qui est malsain de faire à ses enfants. Puis en même temps, aux enfants, de dire, ouais, c'est possible de changer et de devenir autre chose et de suivre ce que tu as à l'intérieur de toi, tu sais.
Est-ce que quand tu es devenu papa, tu as eu peur de reproduire ce que ton père avait fait, même si on est libre arbitre, là?
Bon, moi, j'ai trois enfants que j'ai pas élevés petits parce que j'ai rencontré ma conjointe, elle avait déjà trois enfants, et leur père est décédé, fait que je suis un père de... Ben, pas de substitution parce que je prends entièrement le rôle et je l'assume entièrement. Mais je ne les ai pas élevés petits, tu sais, je les ai connus un peu plus vieux. Cependant, là, je le vis avec mes petits-enfants. Tu sais, et là, je me dis, waouh, mon Dieu, c'est une période que je n'avais pas connue et c'est une période charnière et il faut faire attention. Il faut être présent d'esprit. Il faut avoir de la mesure, il faut avoir de l'intelligence, il faut les écouter. Puis j'ai la chance d'être professeur aussi dans ma vie, d'avoir exercé au primaire, au secondaire puis au cégep. Donc, connaître aussi les enfants, puis par Amos d'Aragon, des avoir côtoyés, rencontrés, tout ça. Donc, Donc, donc faut pas reproduire ces modèles-là. Puis je pense que l'idée, c'est juste d'être à l'écoute. Parce que souvent, on va dire aux enfants quoi faire, mais on les écoute peu. Si on les écoute un peu, on est capable de mesurer ce qu'ils veulent parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'ai une petite fille, moi, de 9 ans, puis elle est pas bête. Puis, tu sais, si elle veut quelque chose, puis tu dis, oh non, mais je comprends pas pourquoi tu veux ça, là. Elle va te l'expliquer, tu sais. Puis tu vas faire, OK! Ouais, mais moi, je veux ça pour toi. Mais peut-être qu'on peut faire ça comme ça à la place. Puis généralement, ça marche tout le temps, tu sais. Donc, c'est peut-être une œuvre ou un livre pour comprendre qu'il y a des compromis qui existent entre les individus. Puis que ça vaut juste la peine d'en parler. Point, tu sais. Voilà.
Est-ce que ce livre-là, c'est un tournant en écriture pour toi? Parce qu'il y a eu évidemment tout ce qui est Amos d'Aragon. Ouais. Est-ce que là, tu veux t'en aller vers un autre genre?
Je pense que c'est un bon moment pour bifurquer parce que moi, je suis identifié à Amos d'Aragon vraiment, puis en littérature jeunesse. Puis on m'a demandé de réécrire d'autres choses en littérature jeunesse, puis tout ça. Puis continuer la série Amos d'Aragon, tu sais, ça va sortir en dessin animé en janvier sur Radio-Canada. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup écrit la suite, mais pour la télé, puis... Et là, j'avais plus envie du tout d'écrire, moi, depuis... écoute, j'ai pas écrit de roman depuis... depuis au moins 5 ans. Puis l'envie de revenir avec ce livre-là, l'envie de réécrire m'a repris, j'ai refait ce roman-là, puis je me dis, ah, bon, ben... Peut-être c'est le prétexte, j'avais besoin d'une pause pour aller dans une autre voie, puis aller vers d'autres types d'histoires. Puis là, pour être franc, j'ai commencé à repenser. Je me suis dit, ah ouais, ok, je pourrais peut-être écrire là-dessus. T'sais. Donc, j'ai l'impression que les racines reviennent. Parce qu'écrire un roman, c'est pas de main stage. C'est quand même de la job, tu sais, écrire oui. 60 000 mots d'une histoire qui se tient, tu sais, c'est costaud, fait que je l'avais pas fait depuis longtemps, puis je dois être franc que ce goût-là, cette envie-là, lentement est en train de revenir, de s'emparer de moi, et puis un écrivain atteint sa maturité à 60 ans, qu'on dit, j'ai 52, fait que je suis même pas encore mature comme écrivain, fait que ça vaut peut-être la peine que je continue un peu, au moins pour atteindre ma maturité.
Est-ce que le succès d'Amos d'Aragon, ça a dépassé tout ce que tu avais espéré au départ?
Tout. Hey, moi, là... Tu sais, moi, dans la vie, là, j'étais un gars qui vendait pas de livres, là. Tu sais, mon premier roman, là, qui s'appelle Marmotte, tu sais, j'ai eu un immense succès d'estime. Ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en
mais
parle,
personne
mais
en
personne
en
l'achète. T'sais, j'ai vendu 133 copies de mon premier roman. Là. Mon deuxième, pourquoi qui s'appelait Mon frère de la planète des fruits. T'sais, j'ai battu mon record de 133. J'en ai vendu 134.
De 1.
À ce rythme-là, tu dis, hey, hein,
le prochain va être 135.
On va 200. On va être vieux. Pourquoi j'ai tué mon père, tu sais, ça a été un 800 copies à peu près, puis okay. C'est la thématique père-fils, j'ai commencé à faire un peu de télé, et puis tout ça. Puis quand, puis Amos d'Aragon, c'est une commande, là, c'est l'éditeur qui m'a dit, écoute, je veux lancer une série mythologique, fantastique, médiévale, je savais que j'avais étudié le loup-garou, bon, je m'intéressais à la mythologie, tout ça. Puis moi... Ma volonté, mon espoir, tu sais, je me souviens, j'ai écrit le premier roman à Latuc, justement au chalet de mon père. Puis, c'était l'hiver quand j'ai commencé, parce que la commande m'a été passée le 19 janvier 2002. Fait que je suis tout de suite parti en février, là, puis il faisait moins 40, j'étais avec mon chien qui est décédé depuis. Puis, je prenais des marches sur le lac, puis je me disais, si j'arrive à en vendre 10 000, tu sais. Avoir l'impression d'avoir monté une marche, tu sais. Puis ça serait cool. Et puis mon but, c'était d'en vendre 10 000, tu sais. C'était comme l'idée que j'avais, là. Puis quand ça a été lancé à Amos d'Aragon, mon éditeur a fait 10 000 copies à 99 cents pour lancer la série. 10 000 du tome 1, 10 000 du tome 2 puis 10 000 du tome 3. Il y avait 40 000 à Mos d'Aragon, tu sais. Je me suis dit, si ça marche pas, ça va être le plus gros flop de l'histoire de la littérature au Québec. Puis ce flop-là, il va porter mon nom. Puis le milieu de la littérature, c'est petit. Fait qu'à chaque fois que je vais réenvoyer un manuscrit ailleurs, chez un autre éditeur, on va dire, ah non, c'est Perrault le flop. Tu sais, c'est, oh le flop. Ah là, ouais. Fait que ma carrière est finie là.
Ah ouais, ouais.
Puis c'est juste 6 mois après. Parce qu'on ne sait pas si notre livre vend ou pas. T'sais, comme là, je parle de Le Blond.
T'as pas les chiffres. Ouais.
Mais je sais pas, parce que les librairies peuvent retourner des livres. T'sais, ils ont jusqu'à 6 mois pour retourner un livre. Des fois 3, 6 mois. Fait qu'avant de faire les comptes, savoir si ça marche ou pas, ou si bon, ça prend 6 mois. Puis au bout de 6 mois, je me rappelle que l'éditeur m'avait appelé, il m'avait dit, écoute, Brian, je t'ai demandé d'écrire le tome 4, 5... Là, ça va bien. Noël s'en vient. On tombe à réimpression. Fait que je ne sais pas. Puis là, j'ai dit, wow, qu'est-ce que tu viens de dire? Il dit, Noël s'en vient. Je dis, non, après. Il dit, on tombe en réimpression. Je dis, c'est ça. Est-ce un terme du monde de l'édition que je ne connais pas? Tomber en réimpression, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, Brian, ça veut dire réimprimer des livres. Ouais, mais j'ai dit, pourquoi tu veux en réimprimer? Il dit, c'est parce qu'il n'y en a plus. J'ai dit, oh mon Dieu, l'entrepôt a passé au feu! Textuel. Il m'a dit, non, Brian, on les a tous vendus. J'ai dit, attends, en 6 mois, on a vendu 40 000 livres. Il dit, non. Oui. Puis il dit, c'est décollé. Il se passe de quoi, là? Fait que ça me prend le tome 4, 5. On a le public. Ça va marcher d'une façon spectaculaire. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai compris. Que, mon Dieu, je vendais des livres. Puis, moi, anciennement, dans les salons du livre, on me plaçait entre Ghislain Tachereau, qui est l'inspecteur spectacle,
ah ouais.
Puis Normand Lester, le livre noir du Canada.
Fait que les deux avaient des line-up aux deux places, mais pas à toi.
Puis moi, c'était le silence et les criquets. Puis les gens passaient en me regardant et disaient, oh mon Dieu.
C'est donc triste, il est tout seul.
C'est l'auteur de la maison d'édition qui ne marche pas. fait que c'est dur pour l'orgueil. Puis quand je suis arrivé au premier salon du livre après Amos d'Aragon en novembre à Montréal, j'ai arrivé 20 minutes d'avance. Puis parce que je suis à mes affaires, fait que j'arrive d'avance. Puis là, je vois une file de gens qui attendent. Et je me dis, ah, Lester doit être là. Je dis, mais non, il y a pas. Ah, ça doit être pour Tachereau, il doit signer en même temps que moi. Ouais, quoi. Puis je regarde, non. Puis là, je vois qu'il y a une petite affiche sur la table, puis c'est ma face. Les gens attendaient pour moi 20 minutes d'avance. Qu'est-ce que je suis allé broyer aux toilettes? J'en revenais pas. J'étais aux toilettes, j'étais ébraillé. Je vais mettre de l'eau d'en face, puis j'en reparle, puis je deviens émotif. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a du monde? OK, qu'est-ce que j'écris dans les livres? Ça, tu sais... Faut que je sois intelligent.
Au cas que le monde t'a posé des questions.
Mais là,
aussi,
qu'est-ce que j'écris dans les livres? J'avais fait des dédicaces, mais. Et retourner là et faire semblant que tout est sous contrôle. T'sais, arriver. Bonsoir, bonjour, bonjour, vous allez bien. Oh, c'est un plaisir de vous voir. Et... Oh mon Dieu, et prendre le personnage. Ça a été un grand moment de ma vie, ça. Parce qu'enfin, il y a quelque chose qui fonctionnait. Ouais.
Il y a des enfants qui ont de la difficulté avec la lecture. On a tous eu des lectures obligées à l'école qui nous a cassés, qu'on n'a pas aimé, puis qui a fait qu'on n'a jamais lu. Il y a des jeunes qui ont commencé à lire grâce à Amos d'Aragon, qui ont accroché à cette série-là, puis que c'est devenu... La lecture est devenue un ami, finalement, grâce à cette série-là. Ça te fait quoi comme auteur de savoir que tu as déclenché ça chez certains enfants?
Moi, j'étais l'ancien prof théâtre, français, littérature. Et ça me remplit d'une joie, j'ai de la misère à l'exprimer, parce qu'on veut que ça soit, dans la vie, on veut servir à de quoi, tu sais,
pas. Ah oui.
Et quand t'écris des livres, t'es pas sûr que, tu sais pas qui lit, quand, comment. Quand t'es prof, tu sais, les kids sont là, si le jeune a de la misère avec l'accord du participe passé, puis qu'on arrive après 6 mois à régler le problème... Puis qui comprend, tu sais que tu as réussi quelque chose. Là, tu le sais pas. Tu fais un livre, puis OK, il signe le livre, mais. Et quand tu as ce type de témoignage-là, hier, j'ai fait la voix d'un géant dans la série télévisuelle Amos d'Aragon. C'est en dessin animé, puis hier, je suis en studio à Montréal. J'ai fait une voix de géant pour la série. C'était super cool. T'as le réalisateur qui est là, du doublage, chez Diffuse. Puis, le technicien qui est là, il a 31 ans. Puis quand je suis arrivé, il fait « Monsieur, moi, à 13 ans, je lisais pas. Puis, j'ai commencé à lire avec Amos d'Aragon. Merci beaucoup, vous rencontrer, tout ça. » Ça a eu un impact dans sa vie qui fait en sorte qu'après ça, il a lu, puis qu'il peut mieux comprendre les textes, puis qu'il a passé ses études, et ça a eu un impact positif dans toute sa vie. Puis là, ben, il est assistant réalisateur, il fait ce qu'il aime dans la vie, il est épanoui, il travaille sa série Amos d'Aragon en dessin animé, il capote. Wow! Là, je fais, mec, c'est le fun d'avoir cet impact-là dans la vie d'autres personnes et de savoir que ça a été positif. T'sais. Tu peux avoir un impact sur la vie des gens, que ça soit négatif. Là.
Oui.
Bon, mais que cet impact-là soit positif et qu'il continue, pour moi, c'est une... Tu sais, tu te lèves le matin, tu fais... Je sais, tu peux faire des niaiseries dans la vie, mais au moins, celle-là, je ne l'ai pas ratée. Tu sais, celle-là, on l'a envoyée de l'autre bord de la clôture, puis ça continue. Puis, ah, oh, good, c'est le fun de savoir ça. Puis encore aujourd'hui, il y a une autre génération qui le prend, Amos d'Aragon, qui lit parce que, dans le salon du livre, là, j'ai les gars de 25 ans, 27 ans, là, tu sais, qui ont de la barbe et puis...
Qui l'ont lu quand ils étaient ados.
Ben, c'est ça, tu sais, qui ont l'air des hipsters, tu sais, puis quand ils me voient, ils font « Hey! Oh, vous, là! Hey! » Puis, un autre gang de jeunes qui ont 10 ans, 12 ans, puis qui me regardent encore aussi impressionnés que les jeunes qui ont vieilli étaient avant. C'est très... c'est un grand privilège. C'est un grand privilège dans la vie.
Ouais. Brian, tu es directeur général de Culture Shawinigan.
Ben oui.
Comment tu vis ça, la
COVID? Je suis contrarié tout le temps. Je suis contrarié tout le temps. T'sais, nous autres, on fait du spectacle vivant. Hein. Je dirige deux salles de spectacle, salle en expo, en art contemporain. L'église d'Ozias-le-Duc, où il y a ces œuvres-là. Le patrimoine, la médiation culturelle. Puis là, ben, les spectacles l'été, on fait des spectacles à la place du marché. C'est 5000 personnes, t'sais, ça roule. Puis là, on se retrouve avec plus rien. Je suis passé, en mars passé, de... Tu sais, moi, j'ai 19 employés permanents. On est tombé à plus 45 l'été. Tu sais, ça roule. On est tombé à 5. Capitaine de vaisseau fantôme. Puis, à quelque part, comme je te disais aussi, on se parlait à micro fermé. Tu sais, je peux pas non plus me plaindre. Tu sais, ma grand-mère a passé à travers la Deuxième Guerre mondiale, puis les coupons de rationnement. Puis elle, son problème, c'était Hitler. Moi, mon problème, c'est de mettre un masque puis plus faire de spectacle vivant. Je peux pas chialer. Fait que je suis contrarié. Alors, on vit de contrariété en contrariété. Mais on se dit que c'est ça. Fait qu'il n'y a rien à y changer. Puis c'est comme ça, tu sais.
Es-tu fier de ce qui a été accompli à Shawinigan dans les dernières années? Parce que j'ai l'impression que il y a eu la Cité de l'énergie qui est arrivée. Puis après ça, il y a eu plein de nouveaux spectacles. Il y a eu entre autres la pièce avec l'histoire de Mylène Paquette.
Oui, c'est ce que j'ai. Ouais, ce qu'on a fait.
Il y a eu plein de beaux projets qui ont amené des gens, carrément, des touristes. À Shawinigan, es-tu fier de ça?
Oui, la vocation touristique de Shawinigan, elle est maintenant. Je pense établi aussi bien avec le parc national qui attire sa quantité de personnes là, par année, mais la Cité de l'énergie avec ce qu'on crée à Culture Shawinigan, avec les événements qu'on fait, je pense que en fait le conseil municipal qui est là et notre maire Michel Anger a compris magnifiquement bien qu'à chaque fois que tu mets une pièce dans la culture, ça en rapporte 7. Puis on le voit, hein, quand il n'y a plus de spectacle, mais il n'y a plus personne au resto. Quand tu sais le qu'est-ce qui amène le monde à Québec? C'est puis voir le vieux Québec. L'architecture, c'est de la culture. Le passé, l'histoire, c'est de la culture. Les spectacles. Tu sais, le Festival d'été de Québec, il y avait 2-3 personnes, là, je pense, l'été.
Oui. Hein?
Ben, ces gens-là, ils venaient à Québec, ils dépensaient à Québec. Combien de millions ne sont pas arrivés à Québec parce qu'il n'y a plus de culture? Alors, Shawinigan a compris que quand on investissait dans la culture, puis je suis là pour leur rappeler tout le temps. Puis faites en pas que je le fais parce qu'il est trop fatigant, mais c'est ma job. Qu'à chaque fois qu'on met une pièce, il en rapporte 7 selon les conservateurs, dans le temps, qui n'étaient pas des amis de la culture.
Non, c'est ça.
Moi, je prends toujours le bottom price. Toujours le moins cher.
C'est sûr qu'il haïssait ça, puis il disait ça déjà.
C'est sûr qu'il haïssait ça, puis il disait que ça rapporte une fois 7. Fait que là, moi, je prends ça comme prix. C'est comme le prix du Walmart. C'est le plus bas. Donc, c'est parfait. Mais les libéraux vont dire jusqu'à 11. Mais ça, j'y crois pas. Fait que je me dis qu'une vérité doit être entre 7 puis 11. Mais juste à 7, je trouve ça super.
Ben oui.
Fait que c'est comme si à chaque fois que je vous donnais, auditeur, une pièce, t'sais, vous me donniez une pièce, je vous en donne 7. Fait que 10 piastres, 70, 100, 700, 1000, 7000, 100 000, 700 000. Tu sais, à un moment donné, tu fais OK, ouais, oui. Et veut pas, toute cette économie-là, j'espère qu'on va s'en apercevoir, que ça rapportait, que c'était porteur, et que la culture, tu sais, j'ai toujours dit, on visite pas Paris pour la qualité de ses installations pétrochimiques, on visite Paris pour sa culture. Et les gens et les touristes qui viennent au Québec, ils viennent pour notre culture aussi. Et les événements, et le théâtre, et les festivals, et tout ça, ça en fait partie. Et c'est là, cet été, qu'on l'a mesuré, je pense. Puis on va le mesurer encore longtemps, l'importance de cette culture-là. Fait que moi, Shawinigan, c'est de ça que je parle tout le temps. Parce qu'on a une ville qui est dévitalisée, qui a été dévitalisée longtemps, ouais, ouais. Qui se remet debout. Puis là, qui s'est fait une belle vocation touristique. Puis là, il faut continuer là-dedans. T'sais.
Est-ce qu'il fallait faire ce passage-là, Shawinigan, de quitter la zone, parce que ça a été beaucoup industriel, ouais. Shawinigan. Les entreprises ont fermé.
Ouais.
On s'est retrouvé avec pas de job.
Ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'usine, là. C'est fini.
De changer la vocation de la ville, en quelque
part? Ben, il fallait, ou de toute façon, on mettait dans la porte, là. Tu sais, je veux dire, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, tu sais. Fait que là, l'idée, c'était de devenir le troisième pôle numérique au Québec. Fait qu'on a créé le DigiHub, et puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis en même temps, là, il y a justement numérique, en TI, des trucs qui arrivent, CGI s'est installé. Et, à quelque part, ça l'a amené aussi quelque chose de fantastique. À Shawinigan, il y a 52 nationalités.
Wow.
Non, mais tu te promènes en ville. Moi, je veux dire, mes gardiens à culture Shawinigan, depuis un bout de temps, c'est des Brésiliens. Moi, je parle portugais. Fait que moi, je jase portugais avec mes gardiens à culture Shawinigan. Mais il y a des gens qui sont arrivés, qui travaillent en TI, qui ont parti des restaurants. Et là, il y a une activité qui nous vient justement de ces travailleurs dans les nouvelles technologies qui viennent d'ailleurs, de d'autres places, puis qui ont décidé de venir à Shawinigan. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui aiment l'urbanité, parce qu'ils en ont assez, ou ils ont connu Montréal, ou ils viennent de grandes villes à travers le monde. Ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie d'un contact avec la nature. Tu sais, nous autres, on a une rivière, la rivière Saint-Maurice, qui passe au centre-ville, ouais. Qui est complètement pure, propre. Tu sais, il y a une qualité de vie que ces gens-là recherchent pour leurs enfants, pour eux. Et nous, ça nourrit le tissu social. C'est fantastique, tu sais. Quand tu sais, puis il y a toutes sortes de couleurs, puis on a une mosquée. Tu sais, OK, parfait. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun, ce renouveau-là, puis que ça vienne de gens d'ailleurs qui croient en Shawinigan, comme moi, j'y crois aussi, bien même si je viens de là, tu sais.
En janvier, on va voir Amos d'Aragon en dessin animé,
ouais.
À Radio-Canada.
Ouais.
Est-ce que grand-papa va écouter ça avec ses petits-enfants?
Et c'est sûr. Je vais les obliger comme mon père m'obligeait à faire le marathon. Ah, ils ont besoin de lire. Tu sais, le gars, c'est aussi débile que son père, mais c'est une autre affaire.
Mais est-ce qu'il y aura une émotion de voir ton univers transposé à l'écran? Ouais. Évidemment, c'est probablement le rêve de tous.
Ah,
c'est rarement accessible. Puis les dessins animés, c'est cher, donc il y en a vraiment peu,
non, y en a
des dessins animés québécois. Peu,
Hier, j'étais au studio d'enregistrement, justement, puis, tu sais, ça se dit pas, mais tu sais, Sarah-Jeanne Labrosse, ça fait un personnage de mes affaires. Michel Courtemanche fait le dragon. Tu sais, il y a du staff là-dessus, là, tu sais. Il y a du lourd, là, puis je vois les dessins, puis je vois les animations, puis je vois ça, puis je fais « Wow! » C'est toujours mieux que ce que j'avais pensé, tu sais. C'est toujours... Puis je me dis, moi, t'es à l'origine de ça. God, c'est touchant. Puis c'est sûr que je vais m'asseoir avec les petits-enfants puis on va écouter. Je sais pas quand est-ce que ça va passer, là, c'est quand, mais c'est sûr qu'on va être là, tu sais. Puis oui, c'est sûr que je vais recevoir la série puis je vais la voir moi-même en DVD ou en numérique, là, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est
de voir les yeux d'un enfant.
Ça va passer, là, tu sais, puis d'être là. Ah non, c'est sûr. Et c'est vraiment, vraiment touchant. Puis là, il y a d'autres projets qui s'enchaînent, tu sais, à partir de ça. T'sais, on parle d'un film vivant,
okay.
On parle... De... Bon, là, on commençait par la série, mais le producteur qui a pris ça, Sylvain Viau, qui est un type extraordinaire, inspiré, intelligent et travaillant, dit « Écoute, il faut exploiter ça dans ce sens-là. » Et là, on est en train de travailler d'autres projets autour de ces héros-là. Donc c'est vraiment... Je suis vraiment chanceux dans la vie, moi. Tu sais, puis je le mesure chaque jour de ma vie. Tu sais, j'ai une chance extraordinaire. Oui, j'ai travaillé pour. Oui, j'ai fait tout ça. Mais il y en a qui travaillent pour, puis ça marche pas.
Qu'ils l'ont pas. Ça.
Puis tout ça. Moi, ça marche, ça roule. J'en suis reconnaissant ça ne va pas paraître ésotérique, là, à la vie, mais je suis reconnaissant aux gens qui me suivent, qui aiment ce que je fais, que je raconte des salons du livre, qui sont là, puis qui constituent la base du travail que je fais. Tu sais, Donald Trump parle à sa base, mais j'ai aussi une base de lecteurs qui me suivent. Pas la même. Et qui sont là tout le temps avec moi. Puis c'est un grand privilège d'envie, tu sais.
Ryan, je vais inviter les gens à se procurer Hull Blond,
oui.
Et à suivre Amos d'Aragon,
ouais.
À la télé en janvier. Si on veut te suivre, est-ce qu'on peut aller sur les réseaux sociaux?
J'ai Brian Perrault, O-P-E-R-R-O. J'en ai un, P-E-R-R-E-A-U-L-T, c'est mon vrai nom, ça. Lui, il est privé, c'est juste la famille. Mais P-E-R-R-O. C'est Facebook, je suis là, Twitter, P-E-R-R-O. Puis c'est les deux seuls que j'ai. J'ai pas TikTok, Instagram, pas celle-là. Là, non. La petite fille de 9 ans a TikTok, pas moi.
Ouais. Brian, merci d'avoir été là.
Ça fait grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était une belle entrevue, c'est très gentil.